22:30. Sono le 22:30.
Oh, Radio Libertaire, j'ai une annonce à faire avant de commencer. Merci beaucoup à Jérôme des Amis d'Orwell de me laisser gentiment la place ce soir.
Ouais, c'est une prise d'otage en fait.
Allez, vas-y, fais ton annonce.
Bon, je me suis fait un petit peu hijacker l'antenne ce soir. C'est Henrik qui va assurer l'antenne, hein ?
Ouais.
Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec un petit sujet autour des chantiers des JO qui sont en pleine crise. Et surtout, mouvements sociaux au sein des travailleurs exilés, réfugiés.
Et sans papier.
Ce sera le 9 février. À bientôt, bonne soirée.
À bientôt. Ciao. Donc, merci Jérôme. Donc, j'ai hijacké. Ouais, c'est ça. J'ai fait un radio-jacking ce soir. Et j'ai pris l'antenne à sa place de nouveau en direct sur Radio Libertaire avec nos amis habituels, Serge.
Bonsoir Henrik.
Guy.
Oui, bonsoir Henrik.
Et Yves.
Bonsoir Henrik, bonsoir à toutes et à tous.
Donc bonsoir, nous sommes de nouveau en direct sur Radio Libertaire, comme je le disais, 89.4, ça c'est sur la bande FM en DAB+, sur le multiplex A9, sur internet c'est radio-libertaire.org, puis anarchiste.info également, et Mixcloud pour un tas d'autres émissions. Et un tas d'autres émissions, voilà, point. Alors, bah, comme d'habitude, je vais commencer par les annonces de Publico. Personne dit oui, personne dit non.
Si, si, c'est bien. Si, 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 si.
Ok, je commence.
Si tu les as sous les yeux. Ouais.
Je les ai sous les yeux. Donc, demain, samedi 27 janvier, 16h, rencontre débat sur Michel Ragon et la littérature prolétarienne avec Thierry Maricourt et Raphaël Romney. Puis le lendemain, dimanche 28 janvier, 16h, concert de Frédéric, Vincent, Auguste, Paul et les autres. On passe au mois de février, le samedi 3, 16h, livre Segui, Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes, de Sylvain Boulouk. Puis dimanche 4, 16h toujours, Sarclauret, si vous vous souvenez de lui, il sera en concert donc, et il chante Dylan in French, mais il chantera surtout du Sarclauret. La semaine d'après, le samedi 10 février, 16h, formation professionnelle, le grand détournement. Et ce sera une projection débat. Et puis enfin, le lendemain, dimanche 11 février, 16h, Nathalie Solance, concert avec Claude Guène à la guitare et Jean-Pierre Egeldinger à l'accordéon. Avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que c'était The Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Donc, bonsoir messieurs.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Well, bien. Alors,
on peut se jeter alors, oui.
Vous pouvez vous jeter.
Tu commences, Guy, ou alors Yves commence.
Comme tu veux.
Yves, tu avais un article intéressant sur le droit du travail qui m'a vraiment surpris.
De la simplification du droit au déni de droit. Alors c'est un article que j'ai trouvé, j'ai pas noté la date.
Et ben, ça, c'est dans le Monde. Hein,
c'est malin. Ah, ben,
ça ne peut être que dans le Monde.
Ça a moins de 15 jours. Je vous dirai l'auteur et les auteurs ensuite, sinon ça va vous déconcentrer. Alors, l'article dit la chose suivante. Depuis 2008, unanimement, les différents gouvernements sont impliqués à mener des réformes du droit du travail qui, au motif de simplifier, le font disparaître. Encore en 2023, le ministre de l'Économie annonçait qu'il fallait raccourcir à 2 mois le délai de contestation d'un licenciement, car, j'ouvre les guillemets, il faut des mesures drastiques de simplification pour les entreprises, fermer les guillemets, et qu'un salarié dispose de droits et se défende lorsque ceux-ci sont bafoués, est traité comme un facteur de, ouvrez les guillemets, complexité, fermer les guillemets, comme s'il s'agissait d'une formalité administrative. La vie des entreprises s'est déjà fortement simplifiée, entre guillemets, depuis 2008, ainsi qu'en témoigne la diminution continue du contentieux prud'homal. Différents rapports, notamment les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de 2004-2008 d'Evelyne Séverin en 2019, démontrent que les réformes successives ont déjà eu pour effet de décourager et d'entraver l'action des salariés devant la juridiction prud'homale. Le délai dont dispose un salarié pour contester son licenciement, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est au moment où...
Oui. Bon,
est passé en quelques années de 30 à 5 ans, de 2008, puis à 2 ans en 2013, puis à 12 mois en 2017. Donc c'est passé de 30 ans à 5 ans en 2008, à 2 ans en 2013, puis 12 ans en 2017. Avec cette réduction...
2 ans, tu veux dire, pas 12.
Puis 12 mois en 2017.
12 mois, oui, 12 mois.
Avec cette réduction des prescriptions associées à la mise en place de la rupture conventionnelle en 2008... du barème plafonnant drastiquement l'indemnisation des salariés licenciés abusivement depuis 2017, les lois sous Hollande, et de la simplification et de la complexification de la procédure de saisine en 2016, le nombre de saisines est passé de 176 687 en 2009, 99 000, je vous passe les centaines, les dizaines et les unités, 99 000 en 2018, 88 000 ou 89 000 plutôt en 2021. Et donc de 2009 à 2018, le contentieux a diminué de 44% et a continué de diminuer de 10% de 2018 à 2021. Et les femmes restent toujours minoritaires à faire respecter leurs droits vis-à-vis de leurs employeurs, seulement 40% des saisines en 2018. La baisse du contentieux affecte plus lourdement les salariés non cadres. Entre 2017 et 2021, le contentieux devant la section encadrement, donc les cadres, a diminué de 4% contre 22% et 21% devant les sections commerce et industrie, c'est-à-dire les salariés non cadres. Le contentieux s'est également concentré devant les conseils de prud'hommes des gros bassins d'emploi, marquant un recul de l'accès aux juges dans les zones rurales. L'accès aux juges est donc devenu un privilège. À l'égard des plus pauvres, l'employeur peut en revanche affirmer sa toute-puissance de manière discrétionnaire, sans contrôle ni sanction. Cette diminution du contentieux n'est pas un indicateur de bonne santé de la société, mais plutôt de la création de zones de non-droit au bénéfice de l'employeur. C'est ce que le gouvernement appelle simplifier le droit du travail. Le contentieux en droit du travail a toujours essentiellement été un contentieux autour de la rupture de contrat. Compte tenu du coût d'une procédure pour le justiciable, le salarié ne peut se permettre de saisir le juge uniquement pour faire respecter les conditions d'exécution de son contrat, d'autant qu'une telle saisine revient dans la très grande majorité des cas à provoquer son futur licenciement ou l'arrêt définitif de la relation de travail s'il est en emploi précaire. Pour toutes ces raisons, le salarié ne formule généralement les demandes au titre de l'exécution de son contrat que lorsqu'il conteste également la rupture de celui-ci. C'est donc le contentieux de la rupture du contrat de travail qui porte le peu de contentieux restant, et c'est celui qui vise la réduction des prescriptions et la mise en place des barèmes. Vous vous rappelez, le barème Macron, ça a été discuté à un moment. La sécurité de jugement, la sécurité juridique invoquée pour justifier leur instauration ne concerne que l'employeur. Le salarié injustement licencié se voit plongé dans l'insécurité du chômage, son indemnisation à ce titre faisant elle-même l'objet de cette réduction continue dans le cadre de réformes successives. L'évocation d'une prescription à deux mois, est symptomatique des réformes menées. Elle ferait passer le salarié d'espèce en voie de disparition devant les tribunaux à spécimen de la galerie des espèces disparues. Les délais réduits pour saisir, alors que les délais de jugement n'ont fait qu'augmenter et constituent un déni de justice, alors que le salarié a vu ses délais pour agir se raccourcir et que le contentieux a diminué, il doit attendre toujours plus longtemps que son litige soit jugé. En 2021, la durée moyenne d'une affaire au fond devant la juridiction prud'homale était de 18,1 mois. Durée portée à 35 mois en cas de départage. La durée moyenne en appel est passée de 13,7 mois en 2009 à 20,4 mois en 2018. Ces délais constituent des dénis de justice et l'État français est régulièrement condamné à ce titre par les juridictions européennes sans qu'il améliore les moyens donnés à la justice sociale. L'article se conclut par « Simplifier le droit du travail revient depuis 2008 à conforter les intérêts des employeurs. La justice est le troisième pilier de notre démocratie et l'exécutif s'acharne à le fragiliser par des réformes renforçant toujours l'impunité patronale. » Alors maintenant, je veux dire les auteurs, ça va vous déplaire ou vous défriser, je ne sais pas. Il y a Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la CGT.
Non, pas du tout. Pourquoi ça nous défriserait ?
Judith Krivine, présidente du syndicat des avocats de France, et Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, quand même.
Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette diminution, cette diminution de droits, quel intérêt pour les employeurs ? Je vois pas l'intérêt.
Ah ben si, c'est les sommes versées en cas de licenciement injustifié.
Ah, oui, mais on fait pas des économies sur des versements de sommes de dommages et intérêts en cas de licenciement. C'est pas ça qui fera couler la boîte.
Déjà, ça s'appelle pas dommages et intérêts.
Il y a eu des cas. Alors c'est pas exactement ce cadre-là. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce cadre-là plutôt. C'est des gens qui étaient en contrat de travail précaire pendant toute leur vie pratiquement à France Télévisions ou des organismes publics comme ça, et qui au moment de la retraite, quand ils ont quitté l'emploi, ont attaqué l'employeur pour requalifier en CDI, qui ont eu gain de cause.
Certains n'ont pas eu gain de cause, comme une célèbre présentatrice.
Ah, je ne sais pas. Mais il y en a un au moins qui avait gain de cause.
Noël Bréham, qui s'est pointé, qui a bossé pendant 25 ans, 30 ans pour France Télévisions, qui a voulu requalifier tous ses contrats et qui a été débouté.
Bon.
Mais on sent clairement une chasse.
Non, mais dans le cas de France Télévisions et du type dont je parlais, du monsieur dont je parlais, là, il avait reçu des sommes conséquences. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que ça avait bougé. Ça avait choqué les chefs d'entreprise et donc ça avait bougé. Initialement, ça doit dater de là.
Mais on sent vraiment une attaque évidente.
Et puis ensuite, alors qu'avant, au prud'homme, il y avait pas de barème, c'est-à-dire que c'était les juges qui décidaient des indemnités si le licenciement était abusif, et Macron a jugé utile de faire un barème. Alors, quand, dans certains cas, les juges arrivent à passer par-dessus le barème, quand c'est des cas vraiment trop flagrants. Par ailleurs, il me semble, pour avoir lu un bouquin de Pierre Joxe dans le temps, qu'on peut toujours que les condamnations des prud'hommes soient toujours légères par rapport à celles de la justice. Donc, peut-être possibilité de passer directement par la justice au lieu de passer par les prud'hommes. Je suis pas sûr de ce que je dis.
Il y a quand même une attaque contre les droits des personnes, qu'elles soient au chômage ou qu'elles attaquent aux prud'hommes pour x, y raison. Ouais. Il y a une évidente attaque. Les droits au chômage sont sans cesse rediscutés, revus à la baisse, tout en ayant un discours autour de ça qui tendrait à dire que chômeur égale feignasse. Et pour les gens qui attaquent au prud'homme, c'est que tu ramasses le moins possible quand tu attaques l'employeur. Mais il y a, en plus, y a vraiment une...
Ce
une...
qui m'a déterminé à vous parler de ça, c'est cette complexification du droit. Et en fait, on veut simplifier. Et c'est pas le seul domaine.
Non, mais attends,
parce qu'on entend ça pour les agriculteurs actuellement. On veut simplifier les choses, on veut, etc. On parle par exemple de ne pas mettre de normes supérieures à celles de l'Europe. Bon, je ne suis pas spécialement dans ce genre de truc, mais je ne connais pas de normes supérieures qui soient en France qui soient supérieures à celles de l'Europe, par exemple. Mais je me dis que peut-être dans le futur, il y en aurait. Si on avait une législation limitant les glyphosates ou limitant les OGM, les nouveaux OGM, comme ils appellent ça, alors que l'Europe a décidé de ne rien faire. Et donc, moi, je suis favorable à limiter le glyphosate et limiter... Parce que, contrairement à ce que j'entends sur CNews récemment, il y a des gens qui ont des cancers parce qu'ils habitent à côté de zones où on épand des pesticides. Il y a des oiseaux et la diversité qui meurt à cause de... Et bien, il y a des gens qui l'ignorent encore sur une chaîne qui, pour moi, porte le numéro 16.
Non, mais...
Ça vaut même pas le coup de les citer.
Ceci dit, pour en revenir aux chômeurs, au droit du chômage et au prud'homme, il y a une évidente attaque sur ces textes, sur ces lois, sur ces décisions, tout revoir à la baisse. Et simplification, là, c'est carrément revoir à la baisse les droits des gens, avec de plus en plus de restrictions et de plus en plus, de moins en moins la possibilité pour les personnes de pouvoir se défendre et faire valoir leurs droits.
Oui, c'est ça. Au niveau du temps, parce que quelquefois, pour rassembler des papiers après un licenciement qui tombe dessus un peu par hasard, quelquefois, c'est tellement sous le choc qu'il faut du temps.
Non, mais même si tu ne tombes pas
sous... Et puis,
même
par ailleurs, si... la législation peut évoluer et devenir plus restrictive sur un certain nombre de trucs. Donc, le délai de 30 ans qu'il y avait avant était impeccable.
Non, mais même si tu n'es pas sous le choc... T'as des textes de loi qui encadrent tout ça, et il faut que là, tu t'y retrouves, et si tu es le plaignant, tu es forcément le perdant. En gros, c'est quand même un peu ça, quoi.
C'est toujours un peu David contre Goliath. C'est pour ça qu'il faut protéger l'individu face à l'entreprise qui est puissante. Le droit n'existe que pour... Enfin, s'il n'y a pas de droit, c'est la loi de la jungle. Si on veut protéger les gens qui n'ont rien, il faut du droit.
Oui,
D'entendre qu'on va complexifier, moi j'interprète en vous allez morfler, messieurs, mesdames.
Oui, tout à fait.
Dans ces deux cas, c'est-à-dire d'un côté le chômage et de l'autre les prud'hommes, on voit bien que c'est... tu vas morfler, quoi.
Oui.
Tu vas morfler dans le sens où tu as beaucoup moins de droits qu'avant. C'est beaucoup plus restreint. Et quelles que soient tes problématiques, et même si tu as certainement raison, ça va être très difficile de porter ta cause et d'obtenir gain de cause, justement.
Et c'est pareil pour les droits au chômage aussi, qui vont être...
Exactement, c'est ce que je dis, voilà, les droits au chômage, ça fait plusieurs années, là, depuis que Macron est là, que ça se réduit comme peau de chagrin. Et on voit que pour les prud'hommes, c'est également la même chose. C'était déjà pas évident de faire valoir ses droits aux prud'hommes. C'est extrêmement compliqué, mais alors là, ça devient... compliqué, difficile. Et j'ai un morceau qui va illustrer tout ça.
Il y a de la batterie.
Radio Libertaire 89.4 de Post Non Radio Show. Et ce soir, la programmation musicale qui nous accompagne, c'est une compilation du label français Cielo Danti Records, une compilation parue en 2020 qui s'appelle With Love et qui proposait, et à l'époque, un panel de tout ce qu'ils avaient sorti. Et récemment, il y a eu un concert de David Fenech à la Mécanique Ondulatoire, qui fait partie de la compilation, mais qu'on n'entendra pas ce soir de Post Non Radio Show.
Je crois que c'est au tour de Guy de parler. C'est les anarchistes contre la guerre, je crois, il me semble.
Encore.
Eh oui, parce que c'est un communiqué que j'ai jamais lu, en fait, ici. Je l'avais préparé la semaine dernière, et puis, bon, ça a passé très vite.
Bah, il m'a semblé que tu avais déjà lu un communiqué.
Pas celui-là, je crois, alors. Donc, je vais relancer, voilà. Alors, je ne vais pas relancer la guerre. Hein. Je vais relancer. Alors, ça s'appelle guerre, guerre à la guerre, d'accord. Mais le communiqué lui-même s'appelle Les anarchistes contre la guerre. Et on a tendance aussi à dire contre la guerre, contre les guerres, parce qu'en fait, il y en a un peu partout des guerres. Et il y a toujours eu, hein, un peu partout comme ça. Mais là, ils expliquent un peu. Ils mettent de nombreuses guerres sont en cours, économiques, sociales, environnementales, guerres de religion. Alors, toutes traversent le génocide contre les femmes, et ce, plus particulièrement dans les démocraties, dans les théocraties, pardon, islamiques. Alors, cependant, les seules guerres largement médiatisées et suscitant des communiqués tous azimuts dans l'heure sont celles qui intéressent le capitalisme et ses pouvoirs, des conflits militarisés, oui, qui mettent en jeu les nationalismes, les découpages de frontières, et donc le contrôle de richesses exploitables, les intérêts de la finance, les ventes d'armes, la logistique aussi, les enjeux industriels, la reconstruction, etc. Bref, les guerres menées par les États, leurs armées et leurs milices. Voilà, ce qui est bien détaillé. Alors ils disent la guerre au Moyen-Orient, eh bien, oppose l'impérialisme et le colonialisme. C'est un gouvernement d'extrême droite qui défend l'État d'Israël à la dictature d'un mouvement armé à Gaza, le Hamas, qui aspire, lui, à créer un État islamiste, une théocratie dont les Palestiniens seront les premières victimes. Ils sont déjà, hein, d'ailleurs. Alors, la fédération anarchiste, anticapitaliste, anti-étatique, antinationaliste, antimilitariste, antisexiste, antiraciste, anticlérical, dit non à la guerre. Les anarchistes sont du côté des victimes civiles, des prisonniers d'opinion, en Israël ou ailleurs, qui refusent de servir dans l'armée. Des femmes, des hommes réservistes israéliens qui refusent la guerre. Des femmes et des hommes qui, à Gaza, subissent la double peine. Le Hamas et le gouvernement Netanyahou. Des athées, des deux côtés du mur. La Fédération anarchiste francophone rend hommage aux compagnes et compagnons d'Israël, anarchistes contre le mur, qui seraient, selon les premiers, témoignage au nombre des victimes de l'attaque sanglante du Hamas, le 7 octobre dernier, contre un festival pacifique de musique à l'air libre de l'autre côté. La Fédération anarchiste soutient les groupes israéliens résistant à la guerre, organisations de manifestations contre la guerre, équipes civiles, d'intervention directe, de désescalade, etc. La Fédération anarchiste est pour une résistance palestinienne libertaire, non inféodée comme aujourd'hui à un mouvement politique unique et à un dictat religieux. Plus que jamais, ni Dieu ni maître. Voilà, ça date du 14 octobre 2023.
J'ai quelque chose à ajouter d'ailleurs à propos de la guerre.
Oui.
Je suis téléspectateur de LCI et récemment on nous a signalé que certains généraux européens commençaient à avoir un peu c'est pas vraiment les jetons en tout cas, mais commençaient à s'inquiéter vraiment de l'influence de Poutine, en tout cas des projets de Poutine pour l'Europe. Notamment bien sûr les pays frontaliers à la Russie, mais on commence à vraiment à s'inquiéter justement d'une possible guerre parce que Poutine ne reculera pas d'ici là dans d'autres sur d'autres territoires à conquérir en tout cas, et ça c'est effectivement très inquiétant parce que ce sont les généraux européens eux-mêmes qui alertent effectivement les gouvernements, en l'occurrence, pour essayer de...
Oui, je crois que tu parles d'un général allemand.
Général allemand, absolument, tout à fait, oui, c'est ça. Et ça m'inquiète énormément, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce que ce débile de Poutine peut jusqu'où il peut aller, Mais voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas à propos du chemin.
J'avais lu une interview de l'ancien président qui se relayait avec lui, Medvedev, qui parlait d'une génération simplifiée, mais qu'on arriverait à avoir un territoire uni depuis Lisbonne jusqu'à Vladivostok.
Oui.
Les mecs, ils... Enfin bon, bref, on verra bien. Simplement, comme on disait Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest et les Pershing...
Et les Pershing à l'est, c'est ça?
Les Pershing à l'est, c'est pas les Pershing qu'ils avaient, c'est, je sais pas.
Voilà. Je crois que tu as un article sous les yeux, Yves, il semble.
Moi, j'en ai plein. J'en ai un sur les Jeux Olympiques 2024.
Oh, ah, je vais
peut-être pas tout lire.
On se régale un peu.
Mais comme les bouquinistes sont pas des personnages très riches, parce qu'ils vendent quelquefois 50 pour 50 euros par jour, quoi. Colère tenace des bouquinistes pour Paris 2024, puisqu'ils doivent être obligés de déménager, et les autorités ne prévoient pas d'indemniser ces marchands délogés pendant les JO. Voilà, c'est comme ça, vous êtes trop petits, démerdez-vous. Ça me fait rigoler parce que c'est tellement absurde. Ça coûterait pas grand chose à la mairie ou à l'État de donner une indemnité, parce qu'en plus bon, ouais. Ces boîtes sont relativement fragiles. Mais bon, pour rentrer dans le détail, ni la mairie ni la préfecture n'envisagent d'indemniser ces marchands de livres et de souvenirs qui ne pourront rien vendre pendant au minimum une quinzaine de jours.
Il y a une
association qui
moi je dirais un bon mois, quoi.
Qui est présidée par Jérôme Calais, qui s'appelle l'Association culturelle des bouquinistes de Paris, et monsieur Nunez, le préfet, a indiqué qu'il refusait de signer un arrêté qui imposerait la fermeture des bouquinistes, le seul moyen pour qu'ils puissent obtenir une réparation financière. Autrement dit, en plus, il y a de la mauvaise foi, quoi. Il y a un truc, non, je vous signe rien, et comme ça, vous n'aurez pas... Parce que si je vous signais un truc, vous pourriez avoir un dédommagement, donc je ne vous le signe pas. Ah, ben c'est bien, monsieur Nunez, c'est
alors
bien.
Alors moi, j'ai...
On vous a bien élevé, je ne sais pas si vous êtes passé par... Comment ça s'appelle cette école? Stan? Mais c'est possible. Le représentant des bouquinistes assure que le préfet les aurait ainsi prévenus. Si vous ne lancez pas de procédure juridique à notre rencontre, nous n'imposerons le montage et le démontage que de 428 boîtes sur les 932, soit 47% d'entre elles. Dans le cas contraire, 604 boîtes sont concernées. Ah bah, ce préfet, il sait marchander, disons, hein, pour pas dire des choses désagréables. Et la préfecture de police, par contre, donne une toute autre version, assurant avoir accepté de sacrifier certaines zones qui ne seront donc pas ouvertes au public, ce qui permet de sauvegarder plus de 170 boîtes. Ce sont donc 428 boîtes qui devront faire l'objet d'un retrait puis d'une dépose dans un délai raisonnable sur lequel la ville a pu s'engager. Voilà. Proposition de déménager, Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques de la Seine, n'a pas voulu faire de déclaration à l'issue de la rencontre. Nous avons appris une autre mauvaise nouvelle, a déclaré M. Calais. Tous les autres bouquinistes seront aussi impactés. Si leurs boîtes resteront en place, ils ne pourront pas travailler. Tiens, il y a un accord qui me plaît beaucoup, là. Si leurs boîtes resteront en place, ils ne pourront pas travailler. Bon, c'est entre guillemets, donc je vous le laisse comme ça, vous amuserez avec moi. La mairie de Paris a de nouveau suggéré la création d'un village du livre. Cette proposition de déménager les bouquinistes Place de la Bastille ou Boulevard Bourdon, dans le 4e arrondissement, a fait l'objet, à l'été 2023, d'un questionnaire auprès des commerçants concernés. 98% des répondants ont refusé cette hypothèse, et indemniser les bouquinistes soutenus par 182 000 signataires d'une pétition ne coûterait pourtant pas cher à la ville, vu leur maigre chiffre d'affaires. Je commençais par ça. Dimanche, je suis resté ouvert entre 11h et 20h. Je n'ai vendu que pour 54 euros, témoignait M. Calais. C'est un article du Canard du 17 janvier, écrit par Mme Nicole Vulcé. Je crois que c'est du Canard, attendez. Non, c'est Le Monde.
C'est Le Monde.
C'est Le Monde, excusez-moi. Madame Vulcé, excusez-moi.
J'ai reconnu les caractères.
Hein, oui.
Alors, moi, j'ai entendu, je crois, que c'est ce matin, dans un demi-sommeil très tôt, je crois, parce que c'est ça, ouais, j'avais mis la radio parce que je voulais pas me rendormir, et j'ai entendu un truc assez délirant, Alors, je ne sais pas à qui parlait, où il exposait ce qui allait se passer pendant l'ouverture des JO, et donc ils maintiennent pour l'instant le fameux défilé sur l'eau.
Ah oui.
Sur l'eau, avec des places vendues dans les premiers les premiers abords de la Seine, puis il y aurait tant de milliers de gens sur au-dessus. Donc pour l'instant, c'est bien ce scénario qui est retenu, et le type me paraissait m'assembler dans mon souvenir complètement donc je le répète en sommeillé, mais il faudrait vérifier que ça a bien été dit sur France Info, mais c'est France Info, ça c'est sûr, mais c'était enfin, la personne était complètement enthousiaste et on s'y serait déjà cru, quoi.
Ben, j'avais un article comme ça qui cite le contraste qui existe entre les gens qui s'occupent des JO et puis le reste de la population parisienne notamment et française qui juge un peu notamment ce grand tour sur la Seine assez préoccupant. Mais enfin bon, pour l'instant, non, les gens qui s'occupent des JO ont l'air très contents. Il faut dire qu'ils sont dirigés par Madame Oudéa
Castéra.
Castéra, bon, très bien. Donc,
oui.
Elle a l'air toujours très optimiste.
Oui, oui, bon. À part qu'elle a l'air d'une grosse niaise.
Une grosse niaise qui
s'adresse à des niais. Enfin, c'était absolument délirant ce que j'ai entendu.
Pour parler un peu sèchement, d'ailleurs, à propos de cette dame, je ne comprends même pas comment Carrefour peut accepter de verser à un individu, sauf si c'est des copains, évidemment, ça change tout, mais à verser à un individu des salaires de 1,5 million. Ça, c'est un truc, ça me chauffe.
Alors, surtout que Carrefour n'a pas non
parce
plus...
Parce que le temps étant relativement incompressible... il y a quand même des limites à pas franchir et là elles sont franchies. Quand en plus elles sont diminuées pour ne plus régler que d'un tiers quand elle est au ministère quand elle s'occupe du tennis. Pourquoi du tennis d'ailleurs? Mais enfin bon, non, je plaisante.
Parce qu'elle a commencé par faire du tennis quand elle était petite.
Non mais elle est à côté de sa raquette, disons quoi.
Ouais, c'est
oh, bah, je vais pas en parler plus parce que ça m'exaspère ce truc. Il y a un article dans le Canard enchaîné
tout le monde est exaspéré par cette dame.
Sur le pauvre monsieur.
Tout le monde voudrait que cette dame dégage, sauf.
Qui a mis.
Attention à ce que tu fais là. Oui. T'es en train de foutre un bordel pas possible, on dirait les JO 2024.
Elle a mis en lumière en plus.
Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi.
En plus, en lumière, les pratiques de Stanislas. Donc, il y a un article dans le Canard. Oh, je comptais pas en parler, mais c'est rigolo. Je peux quand même en parler un petit peu. C'est les mots de. Ça s'appelle L'As de Stanislas dans le Canard du 24 janvier. Les mots de Frédéric Gauthier, le directeur de l'école Stanislas, sont pétris de sagesse. À chaque parution de l'écho de Stan, le journal de l'établissement privé parisien, il gratifie ses élèves de réflexions philosophiques. Dans cet édito publié en 2018 et consacré au thème de la parole, où il écrivait « Si » avec Ésope, fabuliste grec né au 7e siècle avant Jésus-Christ.
Ésope,
oui, ma langue. Nous savons que la langue est la meilleure ou la pire des choses. Travaillons à sa libération et à sa maîtrise pour qu'elle nous permette d'exprimer le meilleur de nous-mêmes et de la meilleure façon. Fermez les guillemets. Question maîtrise de la langue. Le même Gauthier a justement exprimé le meilleur de lui-même sur un plateau de BFM TV le 21 janvier. Sérieux comme un pape, il a tenté de nier, ouvrez les guillemets, le climat propice à l'homophobie au sein de son école catholique, selon un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale révélé par Mediapart le 17 janvier. L'échange entre Frédéric Gauthier et le journaliste Philippe Gaudin ne manque pas de sel. Ce dernier commence par rappeler qu'un catéchiste de Stan avait en mai 2023 parlé de l'homosexualité comme d'une maladie et d'interroger Gauthier. Ces propos-là, vous les condamnez ? et ils ne sont pas fidèles aux valeurs de Stan, réprobation timide de l'intéressé. Je condamne des propos qui n'avaient rien à faire dans le programme puisque ce n'était pas le programme. Bon. Gaudin insiste. Ils sont contre les valeurs de Stan ? Le directeur botte en touche. Ce n'est pas de cette manière-là que nous abordons les sujets. Les valeurs de Stan, ce sont des valeurs d'une école catholique. Les valeurs d'une école catholique sont référées à l'Évangile. La question de Stan, ce n'est pas une question de savoir si on condamne l'homosexualité ou pas, fermez les guillemets. Sauf que dire que l'homosexualité est une maladie est un délire, rappelle le présentateur. J'entends bien. C'est pour ça que ces propos ne sont pas acceptables. Voilà, tente de conclure son invité. Gaudin ne lâche pas le morceau. Donc ils ne sont pas fidèles à vos valeurs. Gauthier Gaut de nouveau en touche. Ils ne sont pas fidèles à l'obligation légale d'ailleurs. Surtout, vous venez de le rappeler. Gaudin, vous les partagez sur le fond, Gauthier. Mais sur le fond, ça n'est pas la question. Je cite à chaque fois hein, Gaudin, c'est important, vous êtes le directeur d'un établissement. Gauthier boit le calice jusqu'à l'alali. J'entends bien... J'ouvre les guillemets. Hein. J'entends bien, je suis le directeur d'un établissement catholique et donc j'ai une double légitimité dont il faut que je rende compte. La première légitimité, c'est du côté de l'Église catholique, puisque je dirige un établissement catholique. Et la deuxième légitimité, c'est du côté de la République, puisque je dirige un établissement associé à l'État par contrat. J'ai donc deux légitimités à tenir. Et l'article du Canard conclut, c'est Madame Clara Bamberger. Que n'aurait-on dit si la première légitimité était du côté de la Mecque ? Mmh. Bah oui. Mmh. Mais c'est des intégristes, ça existe ce pari. Il y a une série de gens qui sont intégristes chez les catholiques et qui valent largement les plus intégristes d'autres religions.
Oui, du côté de Bolloré aussi, un petit peu. Hein.
Ah, je pensais même pas, lui, il m'a dit faire tellement, alors là, vraiment...
Qui se prend pour un sauveur, Bolloré ?
Quelqu'un qui...
Non, mais il est clair que ces gens ont un léger problème avec l'homosexualité.
Oui.
Bah, lui, il a en plus... Enfin, bon, bref. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup... Je ne comptais pas lire l'article parce que c'est apporté trop d'importance à des gens qui... Bon, c'est vrai que...
Voilà, non, mais ce qu'il faudrait, c'est surtout que le gouvernement, là, on leur demande, au moins, faites ça pour nous,
oui.
Dégagez cette dame, quoi.
Oui.
Que cette dame dégage, parce que là, les casseroles, c'est carrément un 33 tonnes de casseroles. Elle a une batterie carrément au-dessus. Ces JO, donc... Ils vont les faire.
Bah les JO,
écoutez, quoi qu'il se passe.
Il y a plusieurs.
Qu'il se passe, qu'il y ait un attentat ou pas, nous, ici, je vais dire un truc. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce jour-là, j'irai pas pleurer. S'il y a une catastrophe, ils vont le maintenir. Ils vont le faire. Ça va être leur délire. Ils vont nous faire chier. Ils nous font chier avec. On va se les supporter. On va vraiment devoir supporter ce truc dont beaucoup de gens ne veulent pas. Et donc, qui se le fasse, ce putain de jeu, qui se les fasse, ces putains de Jeux Olympiques, nous, on s'en lave les mains. Moi, en tout cas, je m'en lave les mains complètement. Je ne veux rien savoir s'il se passe quoi que ce soit, qu'ils ne viennent pas nous emmerder. Parce que là, ça suffit, leur salade, leur manip, il y a un évident décalage, c'est même plus la peine de le dire, quoi. C'est même plus la peine de le dire. C'est carrément, rien ne va plus, quoi.
C'est pas elle qu'on... C'est pas Amélie Oudéa Castéra que... À qui on ferait confiance pour l'organisation des JO.
Alors déjà, elle dégage.
Voilà, ça sera déjà
pas
mal.
Parce qu'on sait très bien que ces JO, finalement, c'est pas forcément elle, c'est le gouvernement, donc Macron et Madame Hidalgo.
Oui.
Yves, Madame Hidalgo. Donc...
c'est pas seulement Madame Hidalgo, il y a des constructions qui sont en Seine-Saint-Denis.
T'es qui se démerde après si ça se passe mal, qu'ils viennent pas nous emmerder avec ça, quoi. Franchement,
ils ont été obligés de construire une piscine parce qu'il n'y avait pas assez de place pour des spectateurs pour les piscines.
Alors, il paraît que la piscine n'est pas aux normes, elle n'est pas assez grande.
Ah bon, j'ai pas vu.
Oui, il y a une piscine qui n'est pas assez grande, enfin...
On en reçoit un autre sur un parc à la Courneuve qui était un poumon pour le 93. Ça n'existera plus.
Mais pourquoi voter pour tous ces gens-là, quoi ?
Et j'ai lu un article récemment dans Le Monde où il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans les élus du 93 par rapport à ces Jeux Olympiques en disant ça va amener un certain nombre de... Mais en fait, tout leur est passé sous le nez, quoi.
Mais donc, oui, donc, bien sûr.
Grosse déception.
We'll be right back.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, The Post Non Radio Show, jusqu'au cou dans les emmerdes, mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout.
Tout à fait d'accord.
Sinon, j'ai bien rigolé en regardant la réaction de certains parlementaires ou pas parlementaires. Il s'agit de M. Wauquiez, M. Ciotti. Ça m'a beaucoup fait rire.
Alors, M. Ciotti et M. Wauquiez.
Parce qu'en fait, moi qui ai un téléphone, je suis assez maso pour être inscrit... sur le site du Conseil constitutionnel, et donc ça fait une dizaine d'années que je reçois régulièrement les trucs.
Ah,
et
tu donc, es inscrit sur le site du Conseil constitutionnel.
À chaque fois qu'il y a une saisine,
c'est une application, dis-nous tout.
Non, c'est pas une application, tu t'inscris à leur newsletter, c'est tout.
Oh, la newsletter du Conseil constitutionnel, formidable. Yves.
Bon, tu me laisses parler ou c'est pas possible?
Oh, ben non, mais tu es toujours plein de ressources. La newsletter du Conseil constitutionnel. Vous entendez les auditeurs? Génial, inscrivez-vous.
Ben oui, parce que quelquefois, c'est des saisines qui sont faites par des particuliers qui se retrouvent à ne pas pouvoir se défendre, par exemple, et qui demandent si un texte qui n'est pas prévu qu'il puisse se défendre face à un juge n'est pas inconstitutionnel. Et dans ces cas-là, souvent, le Conseil constitutionnel dit effectivement il n'y a pas possibilité donc, pour la personne de faire entendre sa défense, et donc le texte mérite un complément, etc. Et pour l'instant, il est inconstitutionnel. Et quelquefois, il fixe un délai pour que le législateur puisse rectifier le tir, ou quelquefois il met une application directe. Et là, en fait, l'article 1, c'est un cas un peu à part, mais tout le reste qui a été donc déclaré non conforme à la Constitution, c'est à cause du fait que le gouvernement a commencé par déposer un texte au Sénat, ce qui n'est pas coutume, mais enfin il a le droit, et ensuite il y a des amendements qui ont été déposés. Il faut, pour qu'ils soient recevables, ces amendements, quel que soit leur contenu, qu'ils soient en rapport avec le texte initial. Or, il y en a 35 qui n'étaient pas en rapport avec le texte, ou 31, qui n'étaient pas en rapport avec le texte initial. Donc sans même regarder ce qu'il y a dedans, à part est-ce que ça porte sur un sujet proche ou éloigné, voire très éloigné du thème traité, et comme ils ne sont pas proches ou éloignés, même très éloignés, mais ayant quand même un rapport avec le texte bon initial, et bien ils sont déclarés inconstitutionnels. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte qui a été donc raccourci de 35 paragraphes, chacun des paragraphes, s'il était revoté tel quel à l'Assemblée nationale en dehors de la loi qui était déférée, il pourrait très bien être parfaitement légal et constitutionnel. Simplement, c'est la façon de faire qui est inconstitutionnel. C'est un article, bon, l'article 45. Et donc, je trouve ça marrant que des gens qui sont élus, d'abord, ça arrive encore assez souvent hein, qu'un député, lors d'une loi, essaye de faire passer un texte qui n'a pas de rapport avec la loi, donc ce qu'ils appellent un cavalier législatif. Ça me surprend toujours qu'il y ait des gens qui essayent. Donc quelquefois c'est pour faire passer un texte en douce, très souvent c'est retoqué. Quand ça arrive à passer le cadre de la commission des lois, bon, en général, c'est des amendements qui sont déposés bon, en séance, et on s'aperçoit plus tard que on s'est fait embobiner, quoi. Et donc, une loi ne doit pas contenir énormément de cavaliers. Donc, je suis surpris que des gens qu'on peut penser aussi sensés, enfin, je m'amuse à dire ça, que M. Ciotti ou que M. Wauquiez, qui a, je crois, déclaré, je ne vais pas parler plus de Wauquiez que ça, il m'intéresse pas beaucoup, mais je suis surpris qu'ils connaissent pas le texte, ça me ferait marrer qu'ils connaissent pas, d'autant plus que lorsqu'ils ont présenté leur appel, ils ont fait tout un truc pour bien montrer que ce qu'ils proposaient, c'était des textes qui étaient parfaitement pas des cavaliers législatifs qui avaient un rapport. Bon, au moins pour le début, ça a marché. C'est ensuite que ça s'est gâté. Et ensuite, pour M. Wauquiez, que dire, il connaît certainement, c'est une jurisprudence complètement normal du Conseil constitutionnel. Il y a rien d'extraordinaire. Donc ça me fait rigoler de voir leur réaction en disant que il faut changer la Constitution et que vous changez le rôle du Conseil constitutionnel. Ce qu'on peut reprocher, c'est à Macron d'avoir joué un jeu comme ça. Alors ensuite, sur le reste de la loi, les articles qui ont pas fait l'objet d'une demande pour voir s'ils étaient constitutionnels ou non, ils n'ont pas été examinés par le Conseil. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas s'ils sont constitutionnels ou non, et on le saura s'il y a des gens qui sont embêtés par l'application des articles et qui font une demande pour voir s'ils sont constitutionnels ou non. Et donc, il faut attendre le futur.
Moi, je pense qu'on devrait monter sur le Capitole et...
Mais ça me fait rigoler.
On n'est pas aux États-Unis, c'est pas Trump.
Le degré de bêtise où essaie de nous entraîner Ciotti est évoqué, c'est vraiment confondant, quoi. Au point que d'ailleurs, j'ai entendu une interview de Fabius, là, en venant ici, qui disait, mais pour changer la Constitution, c'est très très simple, c'est l'article, alors je ne me rappelle plus le numéro de l'article, 85 ou 91, je ne me rappelle plus, et le journaliste dit quoi, vous savez peut-être par cœur, et donc il lit l'article, et sommairement, je ne veux pas faire du mot à mot, parce que je n'ai pas peut-être sous les yeux, il faut qu'il y ait un texte voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, et ensuite, une fois ce texte voté par les deux assemblées, c'est soumis au Congrès, qui vote, ou alors ça passe par un référendum et on vote. C'est les deux. Donc c'est pas la peine de demander à Macron ou à ceci ou à cela de faire une réforme. Ils ont qu'à s'organiser pour faire voter un texte et qu'ils arrêtent de vous emmerder avec leur connerie, quoi. Moi, c'est un peu ce que je pense sur les gens qui veulent réformer parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause sur un texte qui est complètement délirant. Donc je suis très content que...
Ouais, j'ai Fabius le pourri qui a les mains pleines de sang. Arrête des séropositifs.
Non, c'est pas vrai ça.
Si...
Non, je suis pas d'accord.
Avec,
je suis pas d'accord du tout. Ça a été quand il était premier ministre, ça a été le premier.
Non, ça va, c'est bon.
À alerter sur le sujet, alors que parce qu'il avait des amis qui étaient dans le milieu médical et qui lui racontaient. Et tout le monde lui est tombé dessus, au début. Donc ensuite.
Tu blanchis
complètement.
D'accord, ok. Tu nous apporteras les preuves la fois prochaine.
Non, mais faut pas non plus abuser.
Tu nous apporteras les preuves.
C'est du passé en plus. Hein. Bon.
Non. Il a les mains pleines de sang.
Bon.
Comme Edith Cresson.
C'est pas la même chose.
Ah, d'accord.
Edith Cresson, c'est pas la même époque. C'est quoi ce que tu reproches à Edith Cresson?
C'est l'histoire du sang contaminé.
Mais c'est pas elle qui était ministre à ce moment.
Non, mais il y avait Fabius.
Oui, il y avait Fabius qui était Premier ministre. Et la ministre de la Santé, c'était... j'ai oublié.
Ah, je confonds, Cresson, c'était dans une autre histoire.
Oui, mais Cresson, il n'y avait pas d'histoire de sang contaminé à l'époque. C'était pas...
C'est pas la bonne époque.
Ok, d'accord, excusez-moi.
Je t'en prie.
J'avais envie de mouiller... la salade. Cresson, je sais pas pourquoi.
Fabius, on ne peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a fait, mais au niveau...
J'aime pas.
Peut-être, c'est un bon pied, etc. Très bien. Mais là, il a un rôle, c'est faire respecter la Constitution, et ma foi, il l'a fait respecter, point à la ligne. Il n'a pas tellement le choix. Hein.
Ouais.
Thank you.
First Non-Radio Show, Radio Libertaire. Ah oui, désolé pour la confusion extrême, ma détestation de Dick Cresson a fait que j'ai un peu tout mélangé. Ça arrive.
On te le pardonne, hein?
Moi, j'ai regardé sur le site Wikipédia, et donc, parce que j'avais un doute brusquement. Et donc, ils disent que dans l'affaire du son contaminé, il a été relaxé, mais ça a entaché directement sa popularité.
Oui.
Et bon, voilà.
Donc, il n'y a rien eu contre lui, en fait.
Mais moi, j'ai. Contre lui.
Non, contre elle, Edith Cresson.
Ah non, mais je ne parlais pas de Cresson.
Fabius, oui.
Excuse-moi, oui.
Oui, oui. T'as envie de manger de la salade, on dirait. Ou des salades. Ce qui est le cas quand on lit la presse aussi.
L'affaire du sang contaminé, c'est après 88, donc c'est quand même tard par rapport à ce qui s'est... Enfin, c'est quand même... Bon, enfin bref, on...
On dévie un peu, c'est vrai. Mais bon...
Guy, Yves, qui a quelque chose à...
Bon, moi, je vais vous demander, est-ce que vous avez vu le film « Nous n'avons pas peur des ruines » ?
Non.
Non.
D'accord, voilà. Parce que là, je retombe dessus et nous, on avait été informés dans le milieu des espérantistes qu'il y a une version en espéranto qui existe.
Ah.
Voilà. Donc, mais je n'ai pas noté les dates parce que là, il y a plein de dates. Et je vois qu'on est à peu près au milieu hein, du numéro de janvier, voilà. Et que les dates, elles commencent, c'est le 9 janvier, et elles vont encore jusqu'au 8 février. 8 février, ça fait loin quand même. Ah non.
On n'en est pas loin. Hein.
Avant-premier début 2024, donc film en phase évolutive, ça c'était jusqu'à fin janvier. Non, même jusqu'à fin de 02, je veux dire, de février, voilà, jusqu'au 22-02. Hein. Alors c'est curieux parce qu'en dessous c'est marqué « Première du film en version cinéma » avec buffet grec et concert de Rebetiko. Oui, oui. Oui. Donc, et ça, c'était déjà à partir de 27-01. C'est fini quand ce week-end, donc, c'est ça? Ce week-end, on sera le combien? 28, 29
ouais. Oui, on sera
ouais.
Le 28.
Oui, on est le 26 hein, aujourd'hui.
Oui, on est le 26.
Donc, on sera le 28 ce week-end. Lundi 27, voilà. Donc, lundi 27, ce sera déjà, c'est là que va commencer première du film en version cinéma. Alors, ça va aller de 27 janvier jusqu'à 8 février, pareil.
Je crois que le 27, c'est pas un lundi. Je crois, il me semble.
Non, ça va être un mardi. Hein.
C'est un. Le 29 est un lundi. Et voilà. Donc,
non, 27 c'est demain.
27 c'est demain.
27 c'est demain.
Voilà.
27 c'est demain. 28, 29 pour le lundi. Oui. Voilà. Ça sera le 29 lundi déjà. 29. Et c'est, bon, ça va à fin février. Alors, fin février, c'est Bordeaux, Bayonne, Dax, Toulouse, Carmo, Montpellier. Ça bouge beaucoup, de toute façon, à chaque passage du film. Hein, voilà, ça part à Port-de-Boux. C'est dans le 13, oui. C'est dans le...
Et c'est quoi ce film, déjà?
C'est Marseille. Et ça finit en février. À Montpellier, oui, département 34, le 8 février. À voir.
Non, mais c'est quoi ce film, déjà?
C'est ce qui se passe en Grèce, ce qui s'est passé en Grèce dans les milieux libertaires, surtout aussi, voilà.
Ah d'accord, ok.
Oui. En présence du réalisateur, c'est Yanis, hein, Yanis Yuluntas, hein, le réalisateur.
Ah ok, oui.
Oui, oui.
Ouais.
Voilà. Ouais. Alors ça sera à voir, alors qu'est-ce qui est intéressant pour nous ici, on va quand même causer,
oui.
On est quand même des gens ici à Paris, hein, à Paris, région parisienne. Alors, je suis en train de regarder. On a dit qu'on est en train. On est le 26 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à Guyans, c'est 05. C'est carrément dans le sud. Hein. C'est le sud. Donc, on va redémarrer ici. 13, 42, 63, 33. C'est encore loin de chez nous, hein, parce que 13, c'est Marseille. 42, c'est Loire quelque chose, 63 c'est Puy-de-Dôme, 33 c'est Bordeaux, quoi, c'est Bordeaux, le 2-2 c'est 33 aussi, le 1 et le 2 février c'est Bordeaux. Après, ça reste à Bayonne. Donc, Bayonne, c'est encore le Pays Basque. Dax, c'est encore le Pays Basque. Un autre département, mais alors 64-40. 31, c'est Toulouse. C'est encore central en France. Carmo, c'est 81. Ça me dit rien, 81. 80, c'est la Somme. Et 81, ça serait quoi? On ne sait pas très bien. Mais, et ensuite, Montpellier, ça reste encore
c'est
dans le sud.
C'est la Saône-et-Loire, non? C'est pas la Saône-et-Loire?
81. Ben, 83, c'est le Var.
Ah. Oui, 83 c'est le Var, 84 le Vaucluse.
Donc là c'est 81.
81,
le Vaucluse.
Je peux dire c'est 9 au carré.
Je ne sais pas.
Non, c'est... Oui, 9 fois 9. Oui, non, c'est Vaucluse.
Vaucluse c'est le 84.
Oui, Vaucluse 84. Le Var, Vaucluse.
Alors 81, je ne sais plus. Nous partons à la découverte des départements français.
78, c'était les Yvelines.
Le Tarn,
d'accord.
Ah, c'est 80. Le Tarn, 81
oui.
Ah, le Tarn, voilà. Oui, donc tout ça, ça reste sur le sud. Et puis Montpellier, bah, sud-sud. Montpellier, donc il n'y a plus rien, là, on va dire. Pour la version cinéma, il n'y a rien par ici. Et puis tout le reste, je vois Paris 18-11, donc il y a longtemps que c'est passé.
Mm-hmm.
Corbeil, c'était le 91, les Lilas 93, c'était tout au début, hein, sur Paris. Tout au début, voilà. Bon, ben, c'est à voir, je ne sais pas quand, et puis, et où.
D'accord. Voilà. Yves, moi, je vois que sur un des articles que tu as sélectionné, il y a des livreurs de Deliveroo qui sont finalement des salariés. Et effectivement, j'ai beaucoup de peine pour ces personnes-là, qui ont un emploi précaire, qui nous font les courses, et tout ça. Je me suis toujours dit, c'est pas possible, ils sont exploités comme c'est pas possible, ils ne gagnent pas assez d'argent. Enfin, je veux dire, c'est un peu scandaleux, quoi.
Il
n'y a peut-être pas d'amélioration. Enfin, dans cet article-là, il y a peut-être une amélioration, mais il n'y a pas d'amélioration dans les autres distributeurs. Hein.
Non, parce qu'on s'y oppose, nous, en France.
Pourquoi on s'y oppose?
Il faut demander à Macron. Je peux lire cet article si vous voulez, je peux résumer en partie. C'est pour la justice belge, les coursiers de Deliveroo sont des salariés. Et les syndicats espèrent que l'arrêt fera bouger les lignes en Europe. Le problème, c'est est-ce que ce sont des salariés, donc. Pour Noël, ce que voulaient les 29 coursiers partis à l'affaire contre Deliveroo, c'était un arrêt favorable de la Cour du travail de Bruxelles. C'est exactement ce qu'ils ont obtenu le 21 décembre 2023, donc devant cette juridiction, ce qui statuait en appel à la suite d'un jugement du tribunal de travail du 8 décembre 2021. Les magistrats ont adhéré aux arguments des coursiers, suivant ainsi des juridictions françaises, italiennes ou espagnoles. Les livreurs auraient dû être considérés comme des salariés, stipule la Cour, munis d'un contrat de travail et bénéficier d'une protection sociale. Quant à l'entreprise, elle aurait dû déclarer ses travailleurs comme salariés, payer des cotisations sociales et respecter les conventions collectives du secteur. Ces travailleurs devront donc être requalifiés en tant que salariés. Alors, c'est un précédent jurisprudentiel important, affirme Fabrizio Antocchio, magistrat et porte-parole de l'auditorat de Bruxelles, le ministère public pour les affaires du droit pénal social. Au-delà de la situation des personnes qui sont parties à l'instance, c'est tout un système qui a été disséqué, analysé et questionné. Et c'est un arrêt de principe dont il faudra tirer tous les enseignements dans le futur. C'est bien le ministère public qui, en octobre 2017, a déclenché une information pénale et confié à plusieurs inspections sociales le soin de conduire l'enquête. Donc le tribunal du travail a été saisi par l'auditorat en 2019, avant que d'autres parties se joignent à la cause, c'est-à-dire 29 coursiers, l'Union belge du transport et deux syndicats, la Fédération générale du travail de Belgique et la Confédération des syndicats chrétiens. Pour Martin Willems, responsable national au sein de la CSC, donc les syndicats chrétiens, la Confédération des syndicats chrétiens, d'United Freelancer, en défense des travailleurs autonomes, cet arrêt est enthousiasmant, car la Cour leur donne raison sur toute la ligne, même si ils accueillent l'arrêt avec prudence.
Deliveroo a menacé de se pourvoir en cassation. L'entreprise est touchée au cœur de son modèle, car l'arrêt confirme que les livraisons de repas ne font pas partie du régime de l'économie collaborative. Ce régime permet d'effectuer des prestations rémunérées de particulier à particulier pour des activités non professionnelles, tout en étant exonéré de cotisations sociales et en ne payant que 10,7% d'impôts pour tout revenu en deçà d'un plafond de 7 170 €. Ce régime hors norme couvre plus de 85% des coursiers de Deliveroo. Et pour la Cour, c'est très clair. Les relations de travail entre un coursier et la plateforme correspondent à une activité professionnelle. Pour autant, la Cour considère que les coursiers ne sont pas non plus des travailleurs indépendants. En témoigne la relation d'autorité qui existe entre Deliveroo et ses coursiers. Ouvrez les guillemets. La question aujourd'hui est celle de la portée de l'arrêt, ajoute Martin Willems. Nous pensons qu'il s'agit d'un arrêt de principe qui doit s'appliquer à tous les coursiers à une date rapprochée pour que ceux-ci aient des droits qu'ils méritent dans le cadre d'un contrat de travail. Deliveroo changera-t-il sa politique ? Rien n'est moins sûr. La Belgique s'est dotée en octobre 2022 d'une loi instaurant une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Ni Deliveroo, ni Uber Eats n'ont l'ont encore appliquée. Au niveau européen, cet arrêt viendra étayer la position belge, dont le gouvernement, qui va occuper la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier, soutient le projet de directive qui instaurerait une présomption de salariat. Un texte qui s'enlise face à la résistance d'États membres, dont la France.
Donc, par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quand ils ne sont pas salariés, ils ont quel statut finalement ? C'est quoi comme statut ? Quand on est livreur en France, en tout cas...
Entrepreneur.
En Belgique, en tout cas, c'est un statut qui permet de payer que 10% d'impôt pour tout revenu inférieur à 7 170 €. En France, j'ai pas cherché. Là, je me suis pas documenté.
Tu veux dire auto-entrepreneur,
oui,
Edric?
Je pense.
Il y a des auto-entrepreneurs, oui, c'est possible.
Je pense que c'est de l'auto-entrepreneuriat.
Mais le problème, c'est la relation.
Une espèce de forme dans.
C'est la relation, les ordres qui sont donnés entre la
plateforme. Oui, parce que c'est une véritable société. C'est même pas. Paye même pas la franchise. C'est une société. C'est même pas comme un propriétaire d'entreprise, parfois, est sous franchise. Et là, ils sont pas sous franchise. Ils ne payent pas pour s'appeler Deliveroo. C'est Deliveroo qui dirige tout. Et c'est pas le.
Il y a une relation d'autorité qui existe entre Deliveroo et ses coursiers. Donc, c'est du salariat.
C'est ça. Exactement. Et c'est pareil pour les autres, c'est pour les autres coursiers. Hein.
Là où Macron s'appuie dessus, et il s'appuyait dessus déjà lorsqu'il était ministre des Finances, je veux dire, avec même la mise en place d'un Uber, je ne sais plus lequel. Bon, il y a eu des relations entre Macron, ministre, et puis Uber. Je vais pas dire de bêtises, mais il y a eu un truc dans les journaux à un moment.
Oui, c'est ça, oui.
Mais le problème, le truc sur lequel il s'appuie, c'est « Bah regardez, vous êtes étudiant, vous voulez gagner un peu de sous comme ça, quoi. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de formaliser plus. » Mais en fait, c'est pas comme ça se passe. Il faut voir le film qui a été fait par...
Mec qui est
anglais. Bon... Ça me reviendra. Il a fait un film où il montre en fait des gens qui sont comme ça coursiers et qui
la Ken Loach.
Ken Loach, voilà. Et la course contre Ken la montre. Le film, il montre bien le système d'exploitation et la façon dont ils peuvent pas s'en sortir de toute façon parce que. C'est fait pour ça, disons. Quoi. C'est fait pour faire du profit à la boîte et c'est fait pour
les exploiter
dans des conditions invraisemblables. Mais bon. Voilà, gloire à Ken Loach. We'll be right back.
va mieux, sans importance, les mots ça va mieux, vidé de leur sens, ça passe, ça va mieux.
Intégration.